Je continue ce matin le cycle d'études, alors c'est un bien grand mot, je dis ça avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie, le cycle d'études de ce qu'on appelle les petits prophètes. Nous avons choisi, enfin, les orateurs, de se consacrer pour un temps à un survol donc des 12 prophètes qu'on appelle petits par le volume de leurs écrits. Et j'ai pour ma part choisi de les prendre par ordre chronologique. Donc, si vous étiez là il y a quelques dimanches, vous m'avez entendu parler d'Amos. Et ce matin, je prends le suivant, encore une fois, dans l'ordre chronologique. Et le suivant, c'est Osée. Et donc, je vais parler d'Osée ce matin. Et je vais imiter... Permettez au plus âgé des orateurs d'imiter le plus jeune. Je vais faire comme Simon quand il a parlé d'Habacuc, c'est-à-dire je vais commencer en vous demandant quel est le verset le plus connu du livre d'Osée, et vous allez me répondre « Ah ah !» Pour Habacuc, c'était facile, parce que le juste vivra par sa fidélité, qui devient en grec « le juste vivra par la foi », ça c'est connu de tout le monde. Pardon ? Non, c'est un verset beaucoup plus connu que ça, et connu... Je vais pas vous faire mariner trop longtemps sur ce sujet. C'est une phrase que même ceux qui n'ont jamais ouvert une Bible de leur vie connaissent, tellement elle est passée dans le langage courant. Je vais vous donner la première moitié, vous allez me donner la deuxième. Qui sème le vent, voilà, récolte la tempête, ça c'est tiré du livre d'Osée. C'est chapitre 8, verset 7. Alors, ça tombe bien que j'ai parlé d'Amos la dernière fois et que je parle d'Osée aujourd'hui, parce que les deux sont liés par le contexte. Puisque, je ne vais pas refaire l'étude du livre d'Amos, mais vous vous souvenez, depuis la mort de Salomon, deux royaumes au lieu d'un, c'est-à-dire le royaume divisé en deux, royaume du nord, 10 tribus, Royaume du Sud, les deux tribus qui restent, c'est-à-dire Juda et Benjamin, mais on l'appelle Royaume de Juda. Deux capitales, Samarie au nord et Jérusalem au sud. Et une concurrence, alors une période de prospérité, puisque les deux rois, Ozias au sud, donc à Jérusalem, et Jéroboam au nord, à Samarie, puisque Samarie c'est la capitale, vont régner pendant 40 ans, avec une période de prospérité, et période de prospérité qu'Amos, vous vous en souvenez, va dénoncer en disant « tout va bien, pas de guerre, période de paix », mais il y a deux choses qui vont vraiment pas. C'est la justice sociale, parce que les écarts se sont creusés vertigineusement entre les quelques riches qui détiennent le pouvoir et l'argent et tous les pauvres qui sont exploités. Bon, allumez la télé, vous verrez que ça n'a rien à voir avec notre époque. Et donc ça, c'était... Enfin, l'injustice sociale, c'est quelque chose sur lequel Amos insiste beaucoup. Et la deuxième chose, alors, qui va être le deuxième leitmotiv qui, va, lui, va être pris par Osée, c'est la perversion du culte. C'est-à-dire qu'il y a entre les deux royaumes une compétition sur le terrain religieux, et pour... concurrencer Jérusalem, qui est quand même l'endroit où il y a le temple, etc., on a fait de Bethel, qui est à la frontière, qui est dans le royaume du nord, mais à la frontière avec le royaume du sud, on en a fait une ville sainte, justement pour que les pèlerins qui venaient à Jérusalem s'arrêtent à Bethel et que ça leur suffise. Et donc, à Bethel, on a aussi créé, alors, non pas un temple, mais une forme de vie religieuse où, dira Amos, il y a à boire et à manger, c'est-à-dire il y a des choses qui sont effectivement à rapporter au culte du vrai Dieu, et puis mélanger à tout ça un culte complètement idolâtre. Et ce qui pose problème, dit Amos, c'est que on n'arrive plus à séparer, si je puis dire, le bon grain de l'ivraie, c'est-à-dire on est tombé dans un syncrétisme... et tout ça avec l'excuse de dire « Ah mais, c'est Yahweh, c'est le Seigneur qu'on, auquel on rend un culte, parce que c'est facile de mettre une étiquette sur ce qu'on a fabriqué. Et donc, Amos, dont je vous ai rappelé que c'était un homme du sud, il est de Tekoa, c'est-à-dire un peu en dessous de Jérusalem et tout à côté de Bethléem, son discours à Bethel, c'est-à-dire dans le royaume du Nord à la frontière, ça lui vaut, ça tombe bien, c'est pas loin, une reconduite à la frontière. Manu Militari, c'est-à-dire le responsable du culte à Bethel, lui dit, si c'est pour raconter ça, dehors. Parce que évidemment, ça pose un problème qu'un prophète dise, moi je viens au nom du Seigneur vous dire que ce que vous faites, c'est du grand n'importe quoi. Donc ça, c'est pas un discours qu'on peut entendre longtemps, donc ça tombe bien, c'est un étranger. Les deux royaumes sont quand même deux royaumes frères. Enfin, ça tombe bien, lui, il vient de l'autre côté de la frontière, donc, hop, on le réexpédie d'où il vient. Et Dieu, évidemment, qui est entêté comme un Normand, c'est notre seul point commun d'ailleurs, va remettre le couvert quelques années plus tard, parce qu'on est toujours dans le même contexte. Donc tout ce que j'ai décrit, je vous renvoie à ce que j'ai dit plus longuement sur Amos et à ce que je viens de résumer à l'instant. Dans le même contexte, Osée, qui est cette fois du Nord, qui est donc chez lui, il va reprendre ce discours en y insistant beaucoup, et surtout avec une exigence de Dieu à son égard, qui est quand même très inhabituelle, puisque, vous le savez, Dieu va user d'une métaphore audacieuse. Alors je dis audacieuse parce que dire une métaphore osée, ça aurait été trop facile, et je ne veux pas tomber dans la médiocrité, d'une métaphore audacieuse pour montrer au peuple la nature de son comportement. Alors, on y va bille en tête. Donc, d'Osée, on ne sait à peu près rien. Osée, en hébreu, c'est Oshéa, et ça ne s'entend pas en français, mais c'est de la même famille que Yeshua, c'est-à-dire Jésus. Si on veut le traduire littéralement, Oshéa, il sauvera. C'est la racine du verbe sauver. De la même manière que Yeshua, Jésus, c'est aussi Dieu sauve. Mais c'est pas un nom inhabituel à l'époque, puisque Osée, vraisemblablement, sera mort, ou en tout cas finira sa vie, à l'époque où le roi porte le même nom que lui, s'appelle aussi Oshéa. Vous voyez, c'est pas extraordinaire. Donc on ne sait à peu près rien de lui, sauf qu'il est fils de Béhéri. Et comme pour Amos, il s'exprime au jour d'Ozias, roi de Juda, au sud, et de Jéroboam, roi d'Israël, c'est-à-dire le royaume du Nord. Sauf que lui, on en donne un peu plus, là je parle du verset premier, on dit « au jour d'Ozias, de Yoram, d'Akaz et d'Ézéchias, ça c'est les rois de Juda, et... les rois et de Jéroboam, roi d'Israël, on ne donne pas les successeurs de Jéroboam, parce que autant jusqu'à la fin du règne d'Ozias et de Jéroboam, ça a été une période de prospérité, je vous l'ai dit, 40 ans chacun, pas une guerre, après ça a été l'horreur. C'est-à-dire que les quatre qui ont succédé à Jéroboam ne sont pas morts de mort naturelle, c'est-à-dire qu'ils ont été assassinés par celui qui a pris leur place. Donc, ça s'est passé en 15 ans. Hein. En 15 ans, il y en a 4 qui se sont fait zigouiller par un type qui a pris leur place, qui s'est fait zigouiller à son tour par un type qui a pris sa place, etc. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les prophéties d'Amos et d'Osée se sont réalisées, puisque les choses se sont considérablement dégradées au point que, je vous l'ai dit la dernière fois, mais je vous le redis, pour fixer les idées, puisque là, on est au 8e siècle, hein. Amos, c'était vers les années 760, là, on est vers les années 740 ou 730, et en 722, prise de Samarie, c'est-à-dire fin de l'existence du royaume du Nord. Et il faudra attendre, alors très précisément 587, mais peu importe, c'est-à-dire un siècle et 20 années plus tard, pour qu'on assiste à la prise de Jérusalem. Donc, 722, prise de Samarie et déportation des habitants du royaume du Nord, c'est-à-dire des 10 tribus, donc il reste d'ailleurs plus grand-chose, et 587, prise de Jérusalem, et déportation, cette fois, des habitants du royaume du Sud. Voilà. Et tout le monde se retrouve, enfin, déportation à Babylone, bien sûr, puisque ce sont les Assyriens hein, qui prennent les villes. Donc, voilà le contexte. Début des paroles du Seigneur pour Osée. Le Seigneur dit à Osée, « Va, prends-toi une femme se livrant à la prostitution et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant du Seigneur. Il alla prendre Gomer, fille de Divlaïn. Elle conçut et lui enfanta un fils, et le Seigneur dit à Osée, « Donne-lui le nom de Yisraël, car encore un peu de temps, et je ferai rendre compte à la maison de Jéhu du sang de Yisraël, et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Il arrivera en ces jours-là que je briserai l'arc, c'est-à-dire la force d'Israël, dans la vallée de Yisraël. » Alors, juste une petite précision historique. Yisraël, c'est tout au nord, c'est en Galilée, et c'est un village. Et la dynastie dont Jéroboam est issu comprend un certain Jéhu qui a pris le pouvoir en organisant un massacre à Israël. Et donc, quand Dieu dit « Tu vas donner à ton fils le nom d'Israël parce que je ferai rendre compte à la maison de Jéhu, donc à Jéroboam, son descendant, du sang de Israël et je mettrai fin à la royauté de la maison d'Israël. Ajoutez à ça que Israël, en hébreu, ça veut dire dispersion. Donc, je mettrai fin au royaume. Donc là, très clairement, est annoncé Israël se prostitue, puisque l'image est forte. Hein, tu vas prendre une prostituée et des enfants de prostitution, parce que les prostituées avaient évidemment une ribambelle d'enfants, vu que la contraception n'était pas aussi pointu qu'aujourd'hui. Donc ce qui caractérisait les prostituées, c'est qu'elles avaient une nichée d'enfants dont aucun n'était évidemment du même père. Bon, donc, tu vas faire ça, dit Dieu à Osée. À sa place, j'aurais peut-être dit merci, tu aurais pu en choisir un autre. Mais c'est ce que Dieu impose à Osée, et tu vas lui faire des enfants. Et donc le premier, tu vas l'appeler dispersion, parce que voilà ce que je vais faire du royaume du Nord. Et ça sera la rétribution du massacre que j'ai eu à perpétrer à Israël. Et c'est pas fini. Tant que je gagne, je joue. Elle conçut encore et enfanta une fille, et le Seigneur dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ruhama, c'est-à-dire pas aimé. Lo, c'est la négation. Pas aimé, car je ne continuerai pas à manifester de l'amour à la maison d'Israël. Je lui retirerai tout entier, mais la maison de Juda, je l'aimerai, donc le royaume du Sud, et je les sauverai par le Seigneur leur Dieu. Je ne les sauverai pas par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Elle sevra Lo-Ruhama, et elle conçut et enfanta un fils, donc on en est au troisième, et le Seigneur dit, donne-lui le nom de Lo, toujours la négation, Hammi, c'est-à-dire pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et moi, je n'existe plus pour vous. C'est évidemment sans appel. Et le parcours singulier d'Osée ne s'arrête pas là, puisque là, je reprends maintenant au chapitre 3, verset 1. Le Seigneur me dit, va encore. Donc c'est parce qu'il y a, je vais vous épargner ce matin les débats théologiques qu'il y a autour du livre d'Osée. Parce que même entre Luther et Calvin, il y avait un désaccord fondamental sur la façon dont il fallait comprendre, mais ça, je vous en fais cadeau, parce que ça prendrait trop de temps. Donc le Seigneur me dit, va encore, aime une femme aimée par un autre et se livrant à l'adultère, car tel est l'amour du Seigneur pour les fils d'Israël, tandis qu'ils se tournent, eux, vers d'autres dieux et qu'ils aiment les gâteaux de raisin. J'en fis l'acquisition, donc, de cette femme, dont on ne sait pas si c'est... Enfin, dont le débat consiste aussi à se demander si c'est Gomer ou pas, ou si c'est une autre, mais peu importe. J'en fis l'acquisition pour 15 cycles d'argent et une mesure et demie d'orge, et je lui dis, pendant de longs jours, tu resteras à moi, sans te prostituer et sans être à un homme, J'agirai de même à ton égard, ainsi pendant de longs jours les fils d'Israël resteront sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans stèle, sans éphod, sans séraphim. Après cela, les fils d'Israël rechercheront à nouveau le Seigneur leur Dieu et David leur roi, ils se tourneront en tremblant vers le Seigneur et vers ses biens dans l'avenir. Voilà. Donc là aussi, l'annonce est claire. Vous allez vous retrouver sans endroit pour votre culte mêlé de paganisme, parce que vous allez être déporté. Et donc, c'est l'annonce du fait que le peuple du Nord va être, après la prise de la capitale, déporté à Babylone. Alors, il est question... Je vais tout de suite vous le dire, parce que ça me brûle les lèvres. Le grand thème d'Osée, et ce qui fait la beauté de ce texte, c'est l'amour. Et pourtant, on ne dirait pas, parce qu'on ne parle que d'adultère et de prostitution. Et pourtant, il y a peu, je ne vais pas dire pas, mais il y a peu de textes dans la Bible d'une beauté formelle aussi grande que celle d'Osée quand il s'agit de parler d'amour. Mais pour l'instant, il n'est question que d'adultère et de prostitution. Alors, il faut faire une distinction entre les deux. Qu'est-ce que c'est que l'adultère ? Eh bien, c'est s'unir à quelqu'un qui n'est pas celui ou celle avec qui on s'est engagé. Et ça, l'illustration, elle est claire pour les Israélites. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, très clairement, on adore d'autres dieux. Alors, le nom qu'il aurait donné ici, qui est à la fois un nom propre et un terme générique, parce que ça veut dire maître, au sens maître de maison, c'est Baal, vous avez entendu ce mot. Et en fait, il y a effectivement, mais j'y viendrai après, un syncrétisme, c'est-à-dire un mélange de culte authentique et de superstition tout ça sous l'étiquette du vrai Dieu, mais il y a aussi ouvertement à Bethel, c'est pourtant pas rien, le culte des faux dieux. Et ça, dit l'Éternel, c'est de l'adultère. Vous êtes allé vers d'autres. Au chapitre 2 et au verset 4, il y a l'acte d'accusation par rapport à cette situation. Faites un procès à votre mère, faites-lui un procès, car elle n'est pas ma femme et moi je ne suis pas son mari. Qu'elle éloigne de son visage les signes de sa prostitution et d'entre ses seins les marques de son adultère, sinon je la déshabillerai et je la mettrai à nu. Je la mettrai comme au jour de sa naissance, je la rendrai semblable au désert, j'en ferai une terre desséchée et je la ferai mourir de soif. Ses enfants, je ne les aimerai pas car ce sont des enfants de prostitution. Oui, leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est couverte de honte lorsqu'elle disait « Je veux courir après mes amants, ceux qui me donnent le pain et l'eau, la laine et le lin, l'huile et les boissons, c'est pourquoi je vais fermer ton chemin avec des ronces, le barrer d'une barrière, et elle ne trouvera plus ses sentiers, elle poursuivra ses amants sans les atteindre, elle les recherchera sans les trouver, elle dira « Je vais retourner chez mon mari, car j'étais plus heureuse alors que maintenant, et elle n'a pas compris que c'était moi » qui lui donnait le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche. Je lui prodiguais de l'argent, et l'or, ils l'ont employé pour Baal. C'est pourquoi je viendrai reprendre mon blé, mon vin nouveau en sa saison. J'arracherai ma laine et mon lin, qui devaient cacher sa nudité. Maintenant, je vais dévoiler sa honte aux yeux de ses amants, et personne ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses néoménies, ses sabbats, et toutes ses assemblées solennelles, je dévasterai sa vigne et son figuier, dont elle disait « Voilà le salaire que m'ont donné mes amants, je les changerai en fourrés, et les bêtes sauvages en feront leur nourriture, je lui ferai rendre compte des jours des Baals, auxquels elle brûlait des offrandes, elle se parait de ses anneaux et de ses bijoux, elle courait après ses amants, et moi, elle m'oubliait. » Ce que Dieu dit là, à Israël par rapport à l'adultère, On a besoin de l'entendre, parce que le but de tout ça, c'est pas une étude académique. Le but de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on peut en tirer. Alors, on a besoin de l'entendre, et à première vue, ça ne nous concerne pas, parce que nous, on se dit, on n'est plus à une époque où Dieu, le vrai Dieu sous-entendu, est en concurrence avec des idoles, sauf dans certains coins très reculés de la planète, mais sinon, globalement, tout le monde est à peu près monothéiste, et les religions animistes sont aujourd'hui des confettis religieux sur la carte du monde des religions. Ce que nous avons lu là, c'est que ce qui lui est reproché dans l'adultère, c'est de dire « Je veux courir après mes amants, ceux qui me donnent le pain, l'eau, la laine, le lin, l'huile et les boissons. » Et Dieu répond « Elle n'a pas compris que c'est moi qui lui donnais le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche. Je lui donnais de l'argent et l'or, ils l'ont employé pour Baal. » Si on n'est effectivement plus dans le culte, non pas de Baal, mais des Baal, puisque c'est aussi un nom commun, on est dans une époque où il est presque inévitable de créditer autre chose que Dieu, ou quelqu'un d'autre que Dieu, de ce qu'en réalité Dieu nous donne. Ça sera plus simple avec un exemple. Ma santé, je la dois à ma bonne hygiène de vie. C'est parce que j'ai une bonne hygiène de vie que je suis en bonne santé. C'est tout. Mon confort matériel, je le dois au travail que j'ai fourni, aux études que j'ai faites, et puis à la société qui, peuplée de gens qui, eux aussi, se sont retroussés les manches, ont fait de ce pays ce qu'il est. Autrement dit, tout ce que traditionnellement, si je puis dire, on mettait sur le compte de Dieu parce que, ils étaient plus intelligents que nous pour le coup, on savait bien à cette époque-là que c'était Dieu qui donnait la pluie pour faire pousser. On savait bien à cette époque-là que c'était Dieu qui épargnait les maladies, les guerres, les épidémies. Aujourd'hui, tout ça, on a toutes les raisons de le porter au crédit de ce qui n'est pas Dieu. Il n'y a pas eu de guerre depuis 40 ans, c'est pas parce que Dieu nous a mis à l'abri de la guerre, c'est parce qu'on a de bons diplomates. Et puis le monde entier est devenu raisonnable. Donc à part quelques fous furieux, plus personne n'a envie de nous taper sur la figure. Santé, merci les progrès de la médecine, etc. Et il suffit, enfin malheureusement, il suffit, mais il est nécessaire parfois que Dieu nous l'enlève, ça, comme dans ce texte, comme à cette époque. Il est nécessaire que Dieu nous l'enlève pour qu'enfin on s'aperçoive que c'est lui qui nous l'a donné. C'est quand il nous enlève la santé que on se dit, bah oui, parce que parfois la médecine a ses limites et bah voilà. Et c'est là qu'on se dit, bah, c'était pas forcément seulement la bonne hygiène de vie qui faisait que j'étais pas malade. Tous les spécialistes disent que notre condition actuelle, sur tous les terrains où elle est confortable, elle est extrêmement fragile. L'économie tient à un fil. On peut se retrouver, enfin, imaginez, peut-être que jamais aucune civilisation n'a été dans une telle fragilité et dans une telle inconscience de sa fragilité. Mais demain matin, votre argent, notre argent, pourrait ne plus rien valoir. On aurait l'air malin. Je ne vais pas multiplier les exemples. Mais ce que Osée reproche au peuple, c'est ça. C'est de dire, Dieu vous comble de bénédictions et vous, vous mettez ça au crédit de quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'adultère. Eh bien, moi, je veux entendre ça ce matin. Je veux entendre Dieu me dire, tout ce que tu as, tout ce que tu es, tu me le dois. Et si je claque des doigts, demain matin, tu ne l'as plus. Parce que il n'y a par rapport à ça aucune sécurité en dehors de moi. Et donc, le culte que je lui dois ce matin, c'est de lui dire, bah, c'est comme dira une formule de Paul, c'est en toi que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Et sans toi, on n'est absolument rien. Alors, dira Dieu, l'heure des comptes a sonné, et ça, ça se trouve dans le chapitre 11, alors je ne vais pas trop... 11, verset 2, donc, on revient toujours sur le même leitmotiv. « Ceux qui les appelaient, ils s'en sont écartés, c'est au Baal qu'ils ont sacrifié, et c'est à des idoles taillées qu'ils ont brûlé des offrandes, c'est pourtant moi qui avais appris à marcher à Éphraïm en le prenant par le bras, et ils n'ont pas reconnu que je prenais soin d'eux. » C'est ça l'adultère, Israël. Ils n'ont pas reconnu que c'est moi qui prenais soin d'eux. Moi, je veux surtout éviter d'être quelqu'un dont Dieu dira « Il n'a pas reconnu que c'était moi qui prenais soin de lui. » Alors ça nous parle ce matin. Et donc, de tout ça, il va dire, eh bien, la sentence est terrible. Vous allez être dispersés. Vous n'êtes pas mon peuple. Je ne vous aime plus. Yisraël, lo orama, lo ami. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve donc au. Et puis, donc ça, c'était pour l'adultère. Et le deuxième volet, c'est la prostitution. La prostitution, c'est pas la peine que je vous en donne la définition, mais je vais le faire quand même. C'est la marchandisation au sens de l'échange monnayé. Mais c'est la marchandisation d'une relation qui, dans son essence même, doit être fondée sur l'amour, donc sur le don. On se donne l'un à l'autre, et là, on se vend l'un à l'autre dans la prostitution. C'est-à-dire que on est dans le donnant-donnant. Et le deuxième grief après l'adultère, c'est-à-dire vous tournez vers d'autres dieux pour les remercier de ce que moi je vous donne, et vous n'avez même pas conscience que c'est moi qui prends soin de vous, le deuxième grief, c'est même quand vous me rendez un culte à moi, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit parce que vous me rendez un culte pour ce que ça peut vous procurer. C'est clair que la perversion du culte, du vrai culte, ou du culte du vrai Dieu à Bethel, c'est ça aussi. Cette façon qu'ils ont eue, et d'ailleurs ça se traduit très clairement par le fait que, et ça on en a trouvé historiquement les traces, c'est pas seulement la Bible qui le dit ou qui le suggère, mais... c'est un lieu de prostitution sacrée. C'est-à-dire que la prostitution qui est cette marchandisation de la relation, elle est érigée au rang d'acte cultuel parce que ça symbolise le rapport que le peuple a avec Dieu, c'est-à-dire du donnant-donnant. Alors, on en trouve par exemple une trace, enfin il faut connaître les... C'est dit entre les lignes, mais par exemple au chapitre 8 et au verset 11, Éphraïm, alors Éphraïm, c'est l'autre nom pour Israël, hein. Éphraïm a multiplié les autels pour enlever le péché, puisqu'au départ, c'était à ça que ça servait, hein, le temple, il est là pour expier les péchés. A multiplié les autels pour enlever le péché, mais voici que ces autels sont devenus pour lui une occasion de péché. Pourquoi ? Parce que sur l'autel même, on se prostitue. Et là encore, même dans ce qu'il y a d'authentique dans, on va dire, notre religion, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on s'interroge sur dans quel type de rapport je suis avec Dieu ? Est-ce que je suis dans un rapport de totale gratuité, de reconnaissance, ou est-ce que j'en attends quelque chose ? Est-ce que j'en attends une rétribution ? Vous connaissez aussi la phrase de Paul, qui est d'ailleurs une citation de l'Ancien Testament, « Qui a donné à Dieu en premier pour prétendre être payé en retour ?» On n'est pas dans un rapport marchand. Et il y a une autre façon de poser la même question. Si Dieu ne nous donnait rien, est-ce qu'on serait là ce matin ? Juste parce qu'il est Dieu, et juste parce qu'il nous aime, et qu'il attend notre amour en retour. S'il ne nous promettait rien d'autre que son amour, j'allais dire, même pas une autre vie après celle-là, même pas les bénédictions dont j'ai parlé tout à l'heure, s'il n'y avait rien en échange, quel serait notre culte ? Est-ce qu'on l'aime pour ce qu'il est ou pour ce qu'il nous donne ? C'est ça la problématique d'oser. Et là, très clairement, la réponse dans le livre d'Osée, c'est « Vous vous prostituez », c'est-à-dire c'est du donnant-donnant. Au point que le prophète ne peut même plus prononcer le nom, tellement ce lieu, cette ville sainte, enfin prétendument sainte et pervertie, il peut même plus l'appeler Bethel. Et il l'appelle par dérision, de la même manière que il y a beaucoup de dérision dans la Bible. Il y a beaucoup, pas forcément d'humour, mais d'ironie. Parce que, par exemple, on l'a vu à propos d'Amos, mais c'est vrai aussi là. On a construit à Bethel un taureau, parce que l'idolâtrie, ça consiste aussi à fabriquer des animaux devant lesquels on se prosterne. On a construit un taureau, symbole de fécondité, parce que comme en plus sur l'autel, tout ça tourne autour de la fécondité, de la prospérité, etc. Et donc le taureau, c'est le symbole de ça, et le taureau, comme très longtemps avant, dans le désert, vous vous en souvenez, « Voilà ton Dieu, Israël !» On montre un taureau, et par dérision, on l'appelle le veau dans la Bible, parce que symbole de fécondité, bonjour. Voilà, et de la même manière, mais ça, alors, si on veut prendre les textes, donc, chapitre 8, verset 5, chapitre 8, parce que le taureau, il va subir le même sort que tout le monde, hein, c'est-à-dire que il va être déporté, enfin, ça va être un trophée, un butin. Alors, chapitre 8, verset 5, « Il est repoussant ton veau, Samarie. Ma colère s'est enflammée contre eux. Jusqu'à quand seront-ils incapables de pureté ? Il vient d'Israël, là il parle du taureau, un artisan l'a fait, il n'est pas Dieu. Oui, le veau de Samarie s'en ira en morceaux. Ils sèment le vent, ils récolteront la tempête, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. » Et au chapitre 10 et au verset 6, toujours le même veau. Alors, oui, je disais, ironie, les habitants de Samarie tremblent pour les génisses de Bethawen. Alors, Bethawen, ce n'est pas un village breton, comme on pourrait le penser. C'est une façon de tourner Bethel en dérision, Bethel, la maison de Dieu, que le prophète, par ironie, se met à appeler Bethawen, c'est-à-dire la maison de la faute. Mais c'est bien du même endroit qu'il s'agit. Les habitants de Samarie tremblent pour les génisses de Bethawen, car son peuple est en deuil au sujet du veau, ainsi que sa prêtraille, qu'ils se réjouissent de sa magnificence, maintenant qu'elle est transportée loin de nous. Le veau aussi, on l'emportera en Assyrie, Et donc le veau va effectivement servir de butin en offrande pour le grand roi, c'est-à-dire pour le roi d'Assyrie. Éphraïm, donc Israël, en recueillera de la honte, et Israël rougira de ses intrigues, etc. Donc il y a un moment où Dieu ne se reconnaît plus. Déjà, vous vous en souvenez, je crois que c'est au chapitre 3 et au verset 14 d'Amos, Amos chapitre 3, verset 14, Dieu avait dit « Cherchez-moi, mais surtout pas à Bethel ». Alors, Bethel, c'était à la frontière, hein, comme je vous l'ai dit, à la frontière entre les deux royaumes, mais au nord, il y avait un autre endroit où Dieu était censé être vénéré, c'était Gilgal. Ne me cherchez surtout pas dans ces endroits-là. Aujourd'hui, on dirait Lourdes, on dirait Saint-Pierre de Rome, mais je ne veux pas me fâcher avec personne. Mais ne me cherchez pas là. Cherchez-moi, oui, mais pas dans des endroits pareils. Ça, c'est Bethaway. C'est la maison de la faute. Et cette façon de ce mélange des genres, on le retrouve aujourd'hui, enfin, si vous vous intéressez à la sociologie, et spécifiquement à la sociologie des religions, vous lirez inévitablement, puisque ça court tous les bouquins, que l'attitude de nos contemporains vis-à-vis de la religion, c'est l'attitude qu'on a dans un supermarché. C'est-à-dire qu'on se balade entre les rayons, donc on a une offre pléthorique, et en matière religieuse, on a une offre pléthorique, et on prend dans les rayons ce qui nous intéresse, et on passe à la caisse avec le caddie en disant « Voilà, ça, c'est mes courses. » Et vous l'avez observé, il n'y a pas deux caddies identiques à la caisse d'un supermarché. Pourquoi ? Parce que les goûts sont différents. Les sociologues nous disent qu'en matière religieuse, on en est là. Même quand on fait partie de la même communauté ou de la même paroisse ou ce que vous voulez, on a fait quand même, ou on fait chacun son petit marché, et on met dans le caddie ce qui nous intéresse, et puis surtout on laisse dans les rayons ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui fait que, alors je n'accuse personne, mais c'est vrai aussi, peut-être un peu moins, mais c'est pas sûr chez les évangéliques, c'est que quand on gratte un peu notre socle commun, on s'aperçoit qu'on va vite vers des divergences qui ne sont pas forcément à la périphérie. Dieu dit, c'est pas ce que j'attends du peuple. C'est pas le mélange de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, moins dans ma révélation. C'est pas vous prenez pas ce qui vous intéresse et vous laissez pas ce qui vous dérange. Et puis surtout, vous rajoutez pas vos ingrédients piqués ça et là dans de la superstition, dans une forme de pensée magique. Alors, ça aussi, ça m'interpelle. Parce que dit Dieu, bah, la sanction de ça, c'est la déportation, c'est-à-dire je vais l'emmener au désert. Alors, chapitre 8, verset 13, « En guise de sacrifice, il sacrifie de la chair et la mange. » Mais le Seigneur n'y trouve pas de plaisir. À présent, il fait mémoire de leurs fautes et il fait le compte de leurs péchés. Ils devront retourner en Égypte. Alors c'est une image, parce qu'ils ne vont pas être déportés en Égypte ce coup-ci. Ils vont être déportés de l'autre côté, à Babylone, en Assyrie en tout cas, dans un premier temps. Mais il est clair que la déportation, c'est la rétribution de cette religion qui arrange bien tout le monde, qui enrichit aussi beaucoup, mais qui ne répond pas à l'attente de Dieu. Alors, si on s'arrête là, c'est tristouné quand même, parce qu'on a parlé que d'adultère, que de prostitution, que de sanction, que de punition, que de déportation. Mais s'il faut retenir, en dehors du « qui sème le vent récolte la tempête », s'il faut retenir un verset, et ça a été la thématique qui est revenue dans nos cultes précédents. S'il faut retenir un verset du livre d'Osée, moi je vous suggère celui-là, c'est le chapitre 11 et le verset 9. Je suis un Dieu et pas un homme. je suis un Dieu et pas un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et Dieu le développe, que si on en est arrivé là, c'est pas pour finir dans le mur. C'est pas pour finir dans le mur. Si je vous ai sorti de sorte que vous n'avez plus, alors vous n'avez plus d'endroit pour voilà, faire votre culte, etc. Comment j'ai lu ça? Vous n'avez plus de roi, plus de chef, plus de sacrifice, plus de stèle, plus d'éphode, plus de téraphim. Autrement dit, plus de pays, plus de structure sociale, plus de culte. C'est pas pour vous faire crever. C'est pour vous faire réfléchir. C'est pour vous faire revenir. C'est pour vous faire retrouver la route que j'ai tracée. Et c'est ça qui fait du livre d'Osée un livre magnifique, parce que Dieu dit pourquoi il provoque ça, et surtout pourquoi. Et la réponse à ce pourquoi, c'est très simplement par amour. Alors, là on est au chapitre 2 et au verset 16. Il parle métaphoriquement de son peuple, et on est son peuple, hein, mais de son peuple qu'il a traité de prostituée et qu'il a traité d'adultère, et il dit ceci: moi je vais la séduire, je vais la conduire au désert, je vais parler à son cœur, et de là-bas, je lui rendrai ses vignobles et je ferai de la vallée d'Accor une porte d'espérance. Et là, elle répondra comme au temps de sa jeunesse, au jour où elle est montée du pays d'Égypte. Et il adviendra en ce jour-là que tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon Baal. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, et on ne mentionnera même plus leurs noms. Je conclurai pour eux en ce jour-là une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel, les reptiles du sol, l'arc, l'épée et la guerre. Je les briserai, il n'y aura plus de ça dans le pays. Et je permettrai aux habitants de dormir en sécurité. Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit, l'amour et la tendresse, je te fiancerai à moi par la fidélité, et tu connaîtras le Seigneur. Et il adviendra en ces jours-là que je répondrai aux attentes des cieux, et les cieux répondront à l'attente de la terre, et la terre, elle répondra par le blé, le vin nouveau, l'huile fraîche, et eux répondront à l'attente de Israël. J'ensemencerai pour moi dans le pays, et j'aimerai l'Ororama, la pas aimée, et je dirai à l'Oami, c'est-à-dire à pas mon peuple, tu es mon peuple, et lui, il dira mon Dieu. Changer la malédiction en bénédiction, c'est symbolisé par le mot même de Yisraël. Je vous ai dit tout à l'heure, Yisraël, ça veut dire éparpillé. Alors effectivement, dans la condamnation, ça veut dire « je vais vous éparpiller », c'est-à-dire « je vais vous déporter, vous qui êtes concentrés dans cette fausse ville sainte, je vais vous balancer à tous les vents ». Ça, c'est aussi le geste du semeur. En hébreu, il n'y a pas deux mots pour dire « éparpiller » et « semer ». Parce qu'un semeur, ça éparpille. Et ce qui est au départ une malédiction peut aussi devenir une bénédiction. Et c'est pour ça qu'il y a un jeu de mots. Alors, évidemment, en français, ce n'est pas terrible. Mais je répondrai à l'attente de Israël, je l'ensemencerai pour moi dans le pays. Ce geste qui est un geste de dispersion, c'est aussi un geste de semence. Et c'est pour ça que, au chapitre 2, on dit le nombre, alors l'ensemencement, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer qu'on ne peut ni mesurer ni compter. Et il arrivera qu'à l'endroit où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant ». Les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront, ils se donneront un chef unique, ils submergeront le pays, car grand sera le jour de Israël. Dites à vos frères, amis, mon peuple, et à vos sœurs, Rouhama. » bien-aimé. Il n'y a qu'une seule condition à ça. Mais nous, on le sait bien, mais eux ne le savent pas encore de manière très claire. Mais Dieu va leur dire au chapitre 5 et au verset 15, il dit au moment de la condamnation, « Je m'en irai, je retournerai chez moi jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et qu'ils cherchent ma face. Dans leur détresse, ils se mettront en quête de moi. Venez, retournons vers le Seigneur. C'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé, il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie. Au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. Efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est sûr comme l'aurore. Il viendra vers nous comme vient la pluie, comme l'ondée du printemps arrose la terre. La condition, elle est là. Il faut qu'ils s'avouent coupables. Il faut qu'ils reconnaissent leurs fautes. Et le livre lui-même se termine par cet appel à la repentance. « Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car ta faute t'a fait trébucher. Prenez avec vous des paroles et revenez au Seigneur. Dites-lui, tu enlèves toute faute, accepte ce qui est bon. » Et là, il y a derrière la repentance, le changement d'attitude. En guise de taureau, nous t'offrirons des sacrifices. Terminez les taureaux, hein. Ça y est, on a compris. En guise de taureau, nous t'offrirons au sacrifice les paroles de nos lèvres. La Syrie ne peut pas nous sauver. Nous ne monterons pas sur un cheval et nous ne dirons plus notre Dieu à l'ouvrage de nos mains, à toi par qui l'orphelin est pris en pitié. Et Dieu répond, je les guérirai de leur apostasie. Alors, comme leçon pour nous, j'ai fini, hein, je vous rassure, j'en tire, c'est de, est-ce que nous ne sommes pas un peu dans la prostitution, c'est-à-dire dans cette façon de mettre au crédit de quelqu'un d'autre quelque chose pour lequel nous devrions être reconnaissants envers Dieu et Dieu seul. Et puis, l'adultère, ça c'était. Et la prostitution, est-ce qu'on ne fait pas un savant mélange qui nous arrange bien de la révélation de Dieu et de ce que nous, on tient à tout prix à croire et à faire, alors que ça n'est pas sa volonté. Alors, il y a une règle, j'allais dire une règle d'or à laquelle je ne veux pas déroger, c'est que c'est une réalité dans tous les livres, dans tous les livres de la Bible, de manière plus ou moins voilée, mais dans tous les livres de la Bible, le Christ est annoncé. Et là, vous me direz, ben, on n'a pas vu grand-chose à ce niveau-là. Parce que cette réconciliation, nous savons, nous, qui est le seul à pouvoir la faire. Qui est le seul à pouvoir provoquer ce retour vers Dieu, ce retour authentique, cette façon que Dieu a de nous mettre à l'écart, c'est-à-dire de provoquer dans nos vies, dans nos existences, un désert qui nous fait rentrer en nous-mêmes, réfléchir et revenir vers lui. Alors, je vois la trace de Jésus à 3 endroits. Dans ce que je viens de lire, les fils de Juda et les fils d'Israël se réuniront et se donneront un chef unique. Alors, on pourrait dire, oui, mais retour de déportation, chef unique, ouais, sauf que retour de déportation, c'est, alors je ne vais pas vous faire l'histoire d'Israël, mais le premier qui méritera ce nom, sauf erreur, c'est Judas Maccabée. Donc au premier siècle avant Jésus-Christ, donc très peu de temps avant Jésus. Ça veut dire que le chef unique, humainement, on peut l'attendre, mais là, il y a, de mon point de vue, une prophétie d'une plus grande portée. C'est que tous ceux qui sont, puisque là, il est question, tous ceux qui sont qualifiés de son peuple, ceux à qui on disait, là, si on ne se sent pas visé, hein, il arrivera que, quand on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Vous êtes les fils du Dieu vivant ». Ils se réuniront et se donneront un chef unique et ils submergeront le pays, car grand sera le jour de Israël, c'est-à-dire de l'ensemencement. Donc là, j'y vois très clairement une trace. De la même manière que, je viens aussi de le lire, quand on dit « Retournons vers le Seigneur, c'est lui qui a déchiré et c'est lui qui nous guérira. Il a frappé et il pansera nos plaies. Au bout de 2 jours, il nous aura rendu la vie et au 3e jour, il nous aura relevés et nous vivrons en sa présence. » Si vous n'y voyez pas un clin d'œil de Jésus qui ouvre cette route, qui consiste à retrouver la vie au bout de 2 jours et d'être relevé au bout de 3 et d'être en sa présence, c'est-à-dire avec son peuple. Et puis troisième signe, qui est aussi un clin d'œil. Après cela, les fils d'Israël rechercheront à nouveau le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. David, il est mort et enterré depuis des siècles, à ce moment-là. Ils vont chercher le Seigneur, leur Dieu, et David, leur roi. Alors, bien sûr, c'est le nouveau David. C'est celui qui nous sort de la colère de Dieu, qui nous réconcilie, qui nous ramène. Un Dieu qui nous fait aller au désert pour qu'on réfléchisse à ce qu'on est, à ce qu'on fait, à la manière dont on se comporte vis-à-vis de lui. Mais aussi un Dieu, et les textes que j'ai lus sur la raison de son comportement, c'est-à-dire l'amour infini, incompréhensible, hors de portée, parce qu'il est Dieu et il n'est pas un homme, et à cause de ça, il nous aime d'une manière dont on ne peut même pas prendre conscience. Eh bien, c'est ça qui fait que, un peu plus tard, il donnera son Fils pour que nous soyons réconciliés et pour que nous soyons avec lui dans un culte pur qui a vocation à se développer dans l'éternité. Merci.